l'école à la maison.
Ne mangez pas que des pâtes au beurre tous les jours.
Nous appliquons tous les gestes barrières.
On est en contact avec plusieurs personnes fragilisées quand même.
Surtout, vous prenez soin de vous, recueillir vos témoignages, discuter avec vous, la façon dont vous vivez ce confinement.
Ah ben là, tu sais bien que quand il s'agit de parler de moi, je suis toujours partant. Là, c'est sûr que pour beaucoup, on est tranquille sur la route. Hein. Il y a personne.
Dans le cadre, bien sûr, des recommandations ministérielles nationales de Covid-19.
Chers amis auditeurs et chères amis auditrices, maximum bon positif, d'énergie et de bonne humeur.
Retrouvez-nous du lundi au vendredi pour une émission spéciale, le confinement ensemble sur les ondes, de 12h à 14h en direct sur Calade.
Calade, 100.9.
Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur Calade en direct pour votre émission Le confinement ensemble sur les ondes. Et oui, chaque jour, vous en avez l'habitude, on se retrouve entre midi et 14h pour passer ces 2 heures ensemble. 2 heures avec de l'info, des chroniques pour bien faire la cuisine avec Najette par exemple, des chroniques pour bien faire la cuisine d'une façon équilibrée avec Charline Simion qu'on retrouvera tout à l'heure. Chaque jour aussi, un bon morceau de jazz traditionnel grâce à la chronique Mel 11e avec Georges. Enfin voilà, tous ces rendez-vous là qu'on a pris l'habitude de retrouver ensemble et puis les invités chaque jour que l'on retrouve dans l'émission pour prendre des nouvelles, pour parler de projets, pour parler d'organisation aussi parce que chacun a dû se réorganiser. Alors aujourd'hui par exemple, on pourra parler à Julien Dupéret, directeur de l'Oasis pour savoir comment l'Oasis s'organise. On aura aussi rendez-vous avec un monsieur qui s'appelle Marcel Dupuis qui est résident au Jardin d'Arcadie, une résidence pour les seniors et qui nous racontera comment lui il vit le confinement et comment il s'adapte et comment il vit les choses et je pense que c'est très important voilà, d'aussi s'intéresser comment nos concitoyens, que ce soit les plus jeunes avec l'école, avec la maison mais aussi les anciens, vivent les choses et voir aussi s'il n'y a pas des gens qui le vivent mal ou comment chacun s'adapte parce que on profite aussi de la sagesse de chacun. C'est vrai qu'on a besoin d'avoir un peu des plans, quoi. On fait beaucoup de plans, hein. C'est un peu notre cerveau qui fonctionne comme ça. On aimerait savoir comment les choses vont s'organiser, comment on va faire dans une semaine, dans un mois. Est-ce qu'on doit projeter des vacances ou pas? Comment les choses vont s'organiser? Et puis là, on se rend compte qu'on navigue plutôt dans l'incertitude. Et ça, c'est vrai que c'est pas très confortable pour notre cerveau. Alors, on a un peu du mal avec l'avenir en ce moment, un peu savoir de comment ça va se passer. Mais il y a quelque chose qui est important, il n'y a pas que l'avenir, il y a aussi le passé, et le passé c'est la mémoire. Et la mémoire, c'est la mémoire de ce moment un peu particulier qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce qu'on va en faire aussi? Voilà, c'est la question, parce qu'on vit tous des expériences un peu particulières, un moment particulier. On le vit et l'idée c'est de voir comment on va en garder une trace de tout ça, surtout aujourd'hui avec tous les gens qui s'expriment sur les réseaux sociaux, qui prennent des photos, qui s'enregistrent, qui se filment. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de traces qui sont laissées, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va un peu en faire de tout ça? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Et qu'est-ce que ça va dire sur cette période qu'on a vécue dans, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 100 ans? En tout cas, la ville de Glézé, et plus particulièrement la mairie de Glézé, se pose cette question aussi de cette période un peu particulière et de savoir comment on va garder une trace de tout ça. Et donc, j'accueille maintenant avec plaisir le maire de Glézé, Guylain de Longivial, pour parler ensemble d'un recueil de cette mémoire de confinement que la mairie a décidé de mettre en place. Bonjour, monsieur le maire.
Bonjour, Benoît. Bonjour à tous vos auditeurs.
Comment allez-vous?
Bien, bien, je vous remercie.
Alors, on le disait, hein, c'est vrai que l'avenir, pour l'instant, on a un peu du mal à faire des plans sur la comète et de savoir avec certitude ce que va être ne serait-ce que la fin de la semaine ou la semaine prochaine ou le mois prochain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on vit une période particulière. Une période qu'on a, en tout cas, nos contemporains n'ont pas connue. Il y a eu des périodes d'épidémie, mais c'était il y a très longtemps déjà et c'était une autre époque. Et aujourd'hui, on est quand même à un moment où tout le monde s'exprime assez facilement sur les réseaux sociaux, par téléphone, se filme, s'enregistre sur ce qu'il est en train de vivre. Et puis, mais en même temps, on ne sait pas trop quoi en faire de tout ça. Et la mémoire, c'est quelque chose d'important, de se rappeler comment on a vécu les choses, comment aussi l'intelligence collective s'est développée, comment des initiatives sont nées très rapidement, comment la solidarité s'est organisée. Et vous avez décidé de mettre en place, au niveau de la commune de Glézé, une récolte de cette mémoire de confinement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, Guylain de Longivial?
Oui, oui, avec plaisir. Alors, vous avez raison hein, d'évoquer l'importance de la mémoire. On a quelques jours l'armistice du 8 mai. On le rappelle à chaque occasion comme celle-ci qu'il y a un devoir de mémoire. Alors, pour des événements comme ceci, hein, bien entendu, qui tous les ans jalonnent notre calendrier, mais il est vrai que, oui, à Glaizé, alors c'est une initiative d'Elisabeth Lamure qui s'est appuyée sur une première expérience qu'on avait eue à la fin du siècle dernier, en se disant on va vivre pour beaucoup un moment unique. Qui était le passage d'un siècle à un autre, et je pense que beaucoup d'entre nous se souviennent de tout ce qu'on pouvait dire sur ce que serait l'année 2000. Et donc, nous, il nous était apparu intéressant, enfin, Elisabeth Lamure avait lancé cette opération qui s'était appelée Mémoire du XXe siècle, et qui avait invité les habitants de Glaizé à témoigner sur ce que pouvait être pour eux justement ce XXe siècle qui allait s'éteindre et laisser la place donc au suivant. Donc de la même manière, elle m'a suggéré de lancer une opération par rapport au confinement, puisqu'on se retrouve aussi, vous venez de le rappeler, dans un moment qui est complètement inédit, qui en plus, se dessine de jour en jour. On a un peu de mal les uns et les autres à assurer la manière dont on l'envisage, hein, puisque des éléments nouveaux apparaissent tout au quotidien et il faut composer. Voilà, donc pour nous, c'est de se dire, on vit l'après, on se projette dans l'après plutôt, et on aura, je pense, intérêt les uns et les autres à se souvenir de cette période et la manière dont chacun a pu le vivre. Alors, il y a des instantanés qui aujourd'hui sont diffusés sur les réseaux sociaux et autres, mais nous, il nous paraît intéressant de compiler tout ça. Et d'avoir demain un ouvrage hein, qui nous permette, et puis peut-être aux générations suivantes qui n'auront pas connu cette période, de retrouver trace hein, de ce que a pu être ce début d'année 2020 qui est voilà hors norme, inédit, singulier, et je pense que marquera les mémoires.
Et au niveau d'un territoire aussi, parce que c'est vrai, quand on s'exprime sur les réseaux sociaux, on peut aussi bien écouter l'expression de quelqu'un qui habite à l'autre bout du monde, comme de son voisin. Mais c'est intéressant aussi de voir à l'échelle d'un territoire quelles ont été les différentes façons de vivre les choses. Et puis, en plus, tout le monde ne s'exprime pas forcément sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'accès aux réseaux sociaux, qui n'utilisent pas ou qui ne s'expriment pas comme ça aussi facilement et qui, pourtant, ont des expériences qui ont aussi inventé des choses, des nouvelles façons de faire qui sont adaptées et où c'est très intéressant d'en garder la trace.
Oui, et puis vous avez raison de faire référence à la notion de territoire. Hein. Alors moi, j'y suis très attaché justement à ce territoire municipal, communal, et on a vu hein, dans une période comme celle-ci toute l'importance que pouvait avoir cette dimension, cette proximité. Voilà, donc c'est aussi par ce biais-là de l'inscrire dans le marbre, d'avoir une trace hein, de ce qui a été le confinement à l'échelle de notre commune, ce qui n'interdit pas de s'intéresser à ce qui se passe au-delà, bien entendu, mais notre projet, c'est d'inviter les habitants, les acteurs, hein, toutes les personnes qui font la vie municipale, que ce soit des particuliers, que ce soit des associations, que ce soit des entreprises, voilà, chacun a témoigné à sa manière, selon son envie, pour que on puisse compiler tout ça, et je pense, en fin d'année, on sera en mesure de réaliser un ouvrage. Hein. Je ne sais pas quelle sera la forme de cet ouvrage. On avait, pour mémoire du XXe siècle, édité un livre. Je pense qu'il y aura un livre, mais aussi peut-être bien avec des techniques nouvelles hein, qui nous permettront de relayer sur des supports audio, vidéo, qui ont aussi aujourd'hui tout leur intérêt pour laisser à chacun la possibilité d'exprimer la manière dont il vit son confinement, et vous en êtes la preuve, hein, puisque vous faites ça depuis plusieurs semaines, et vous permettez à des personnes, au travers de vos ondes, de relater la façon dont elles se sont adaptée à cette période qui est inédite et à laquelle personne n'était prête.
Et souvent, oui, on remarque que chacun a sa façon de vivre les choses, sa propre philosophie. Il y a toujours finalement une graine à retirer dans chacun de ces témoignages qui peut nous aider finalement à vivre un peu mieux les choses, qui nous aide à relativiser ou parfois qui sont aussi une prise de conscience de la gravité des choses sans pour autant aller dans la panique. Et c'est vrai que c'est très intéressant de donner la parole, de récolter cette parole. Je vous rejoins sur cet aspect-là.
Et puis nous, on a souhaité être très exhaustif, hein, c'est-à-dire oui, il y a les humeurs, hein, donc il peut y avoir les coups de cœur, hein, mais il peut y avoir aussi à l'opposé les coups de gueule, hein, que chacun peut avoir envie d'exprimer au travers de cette période. Hein.
On ne va pas se mentir, ça manque pas en ce moment. Il y a plein de gens qui ne sont pas contents et qui rouspètent et qui c'est un peu comme au foot en fait. Il y a autant d'entraîneurs qu'il y a de spectateurs. Là, ça peut pareil. Chacun y va de « on aurait dû faire comme ci » ou « on devrait faire comme ça ».
Alors, il y a cette approche-là qui peut être des analyses de la situation. Puis je pense aussi des humeurs, mais parce que chacun se retrouve contraint par rapport à quelque chose qui nous est imposé, qui s'impose. Et je pense que, coup de gueule, par rapport peut-être à la manière dont les choses peuvent être organisées, l'appréciation de chacun, mais aussi, je pense que les coups de gueule, ça peut être aussi par rapport à un ressenti plus personnel sur la manière dont on subit pour partie cette épidémie. Voilà. Et notre idée, c'est de dire, on a appelé ça mémoire du confinement, mais c'est de ne pas nous arrêter au confinement lui-même. Alors bon, on a entendu hier qu'il y aura un déconfinement qui serait progressif, donc c'est aussi de recueillir des témoignages pendant cette période. Hein, et aujourd'hui, je suis bien incapable de vous dire jusqu'à quand cette période va durer, puisque personne ne le sait, que là encore, ça fait partie justement de tout ce qui est inconnu et qui nous laisse dans une incertitude qui est très clairement inconfortable hein, à bien des égards.
Qui est inconfortable et inhabituel, c'est vrai qu'on aime bien savoir où on va, on aime bien avoir un calendrier, savoir comment les choses vont être organisées, même d'ailleurs que ce soit à différents niveaux, mais même au niveau communal, dans une mairie, on projette, on fait des budgets, on fait des projets, et là, on a un moment où on ne sait même pas à la fin de la semaine ce qui va être organisé, ce qu'on va apprendre, ou on ne sait pas si finalement on va remettre les enfants ou pas à l'école le 11 mai. Enfin, c'est difficile de naviguer à vue un peu, et je pense que ça crée des sentiments particuliers en tout cas.
Oui, mais je pense que dans toute cellule, hein, alors vous parlez de la commune, c'est clair, parce qu'on travaille avec un calendrier que l'on bâtit sur des actions à l'appui d'actions municipales, mais pas seulement, je parlais des associations et autres, mais je pense que dans une cellule familiale, c'est la même chose, au niveau d'une entreprise, c'est la même chose. Mmh. Voilà, aujourd'hui, on est tous livrés au même contexte, hein, donc une incertitude, un avenir que l'on est incapable de l'entrevoir précisément. Voilà, on arrive à la veille d'une période qui est importante dans le calendrier annuel pour beaucoup d'entre nous, la période des vacances. Là aussi, hein, on peut imaginer que c'est très inconfortable. Voilà, vous parliez du rythme scolaire, très clairement. Là, moi, si je me replace en tant que maire, c'est une vraie incertitude par rapport à comment, à partir du 11 mai, nous allons devoir accueillir des élèves dans nos écoles. Et c'est quelque chose qui est nouveau pour nous, parce que habituellement, on connaît une échéance, on peut organiser, on peut préparer à l'amont, et là, vous voyez, on est à 10 jours, on n'a pas toutes les informations, on est bien incapable de savoir comment on va pouvoir précisément organiser les choses, donc on fait des hypothèses, hein, mais on sait très bien que on va devoir s'adapter demain par rapport à ce qu'on a pu imaginer aujourd'hui, quoi.
Finalement, on va devenir des spécialistes de l'impermanence.
Oui, enfin moi je vous espérais que ça ne dure pas non plus trop longtemps, qu'on arrive à au terme de cette pandémie, que, d'abord parce que ça voudra dire que on a résolu le problème sur le plan de la santé, et c'est quand même le premier vœu, je pense, de chacun d'entre nous, et puis après de retrouver quand même une période où on soit quand même plus à l'aise, ça soit plus confortable, mais confortable, sérénité, voilà, dans un climat qui en plus permette de retrouver ce qui fait la force, hein, quand même, du quotidien que l'on connaît dans nos communes et nos territoires, hein, la convivialité, le partage, voilà, parce que je pense que la principale contrainte que l'on a aujourd'hui et qu'on subit, et moi si je me réfère au message que l'on peut recueillir, hein, au travers du dispositif d'écoute et de lien qu'on a mis en place, voilà, c'est cette rupture humaine, de chaleur humaine, de contact, hein, qui pèse énormément, quoi.
Eh bien, on va rester en tout cas à l'écoute, j'imagine, sur le site de la mairie et puis les différents réseaux sociaux. On peut retrouver la mairie de Glézé pour connaître au fur et à mesure un peu les modalités de ce recueil de mémoire et de comment chaque habitant et habitante de Glézé peut y participer.
Oui, bien sûr. Et puis on a une adresse courriel, hein, dédiée à cette opération, si je peux la donner.
Ah oui, bien sûr, oui.
Alors c'est mémoire au pluriel, hein, du confinement, ça se tient tout. @mairie-du6glaise.fr, hein, et puis autrement, bah, comme vous venez de dire, sur le site internet et la page Facebook de la mairie, chacun peut trouver les renseignements et si certains le souhaitent, parce que tout est possible, hein, voilà, c'est aussi nous contacter par téléphone, hein, au standard de la mairie qui est ouvert aux heures d'ouverture habituelles, donc c'est le 04 74 65 37 30, hein. Parce que tous les témoignages nous intéressent, hein, même si voilà, c'est pas de la littérature, ça peut être très simple, ça peut être quelques mots, ça peut être des gens qui nous disent mais moi j'ai pas trop envie d'écrire, mais voilà, nous on ira recueillir leurs témoignages d'une manière ou d'une autre. L'important c'est que quiconque veuille participer, s'exprimer, témoigner puisse le faire.
Bon, bah c'est une bonne initiative en tout cas pour pouvoir justement revoir cette époque, peut-être comme je disais, dans 10 ans, dans 20 ans et dans 100 ans, alors pas nous, mais les générations futures.
Oui, je pense que c'est important parce qu'on apprécie, hein, et je pense que ça a été aussi une période, alors qui a pas que du négatif, hein, mais qui a permis justement à un certain nombre de personnes de se repencher sur des archives, sur des vieux papiers, de faire du tri chez soi. Et je pense que beaucoup ont découvert comme ça des témoignages, hein, du passé, familiaux, professionnels. Et je sais que voilà, c'est toujours des moments palpitants pour quand on tombe sur ces ouvrages ou ces écrits anciens ou anciennes photos. J'ai entendu beaucoup de gens parler aussi, oui, l'occasion de partager en famille des albums photos, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas le temps. Donc voilà, et ça me permet de dire qu'on a associé à ce projet un photographe, hein, Benoît Giraud, qui passe voilà, sur des espaces où il y a un peu de vie, je parle des commerces qui aujourd'hui peut être encore ouvert, ou dans des entreprises, et qui glanera comme ça au fil, hein, des jours, des clichés qui seront intéressants aussi pour justement alimenter cette mémoire sur cette période du confinement.
Merci Guylain de Longeville. Je rappelle que bien sûr, pour ceux qui ne le sauraient pas, vous êtes le maire de Glézé et que on peut retrouver toutes les informations utiles pour cette période de confinement, toutes les actions spécifiques sur le site de la mairie de Glézé et puis aussi l'adresse pour pouvoir prendre contact pour cette récolte des mémoires du confinement. On vous souhaite une bonne journée.
À vous aussi, et puis je terminerai simplement en invitant chacun à bien respecter les gestes barrières, parce qu'on parle
bien
de déconfinement,
sûr.
Donc là jusqu'au 11 mai, il faut respecter le confinement, mais après, il faut vraiment, vraiment s'habituer aux gestes barrières, parce qu'ils resteront d'autant plus importants dans cette période, hein, qui va nous permettre de retrouver un petit peu plus de liberté qu'on en a aujourd'hui.
Et nous, on va se quitter avec un chanteur très énergique pour se remettre un peu en mouvement et garder l'énergie, c'est James Brown, j'espère que vous appréciez.
Oui, 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 tout autant que d'ailleurs cette dernière fois. Donc, vous avez des bons choix et ce sera avec grand plaisir. Oui, oui.
Très bonne journée à vous.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
I want to get into it, man, you know, like a sex machine, man, moving, doing it, you know, can I count it off? One, two, three, four. Get up,
get on up,
get up,
get on up,
stay on the scene,
get on up,
like a sex machine,
get on up,
get up,
get on up,
get up,
get on up,
stay on the scene,
get on up,
like a sex machine,
get on up,
get up.
Get on up,
like a sex machine.
Get on up.
Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it together, right on, right on. Get up,
get on up,
get up.
Sur Radio Calade avec Get Up.
Le confinement ensemble sur les ondes.
Le confinement ensemble sur les ondes, c'est votre émission quotidienne que j'ai le plaisir de co-présenter avec Eddy Bernard et Mathieu Rohard. Mathieu que vous retrouverez demain. Et vous savez que quand ce sonne à peu près les midi et demi, c'est l'heure de se mettre à table, mais c'est aussi l'heure de retrouver Najette pour le défi cuisine. Bonjour Najette.
Bonjour Benoît.
Comment allez-vous aujourd'hui dans cette journée où le soleil joue à cache-cache?
Oui, c'est ça. Bon, il n'y a pas de soleil, mais c'est pas grave, le moral est bon.
Vous savez ce que j'ai devant les yeux, Najette? Mm-hmm. Il se trouve que depuis le studio là, de Calade, donc depuis nos fenêtres, on aperçoit un magnifique arbre tout en fleurs. C'est un acacia avec des grappes de fleurs d'acacia qui sont magnifiques.
Et d'accord.
Et vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser dans mon enfance, on faisait des beignets de ça, des beignets de fleurs d'acacia. Je me suis dit, ça se trouve, il n'y a pas que les fleurs d'acacia qu'on peut cuisiner. Alors, je voulais vous proposer que pour le défi cuisine de demain, pour Mathieu, on réfléchisse comment on peut mettre des fleurs dans notre assiette.
Ah, bah très bien. Eh bien, écoutez, je pense que Mathieu sera très content.
Voilà.
Parce que je crois qu'il adore les fleurs.
Et puis, si jamais voilà, vous l'aidez, vous lui direz simplement tourner la tête sur la droite et de regarder les fleurs d'acacia. C'est pour lui dire que, voilà, par exemple, ça se mange.
D'accord.
On en voit juste en tournant la tête à droite par la fenêtre. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous m'avez prévu pour aujourd'hui, Najette?
Eh bien, figurez-vous, Benoît, qui a dit qu'il voulait une recette de fromage cuit et coulant.
Ah,
et
il a voulu faire le gourmand.
Aujourd'hui. Oui. Je vous propose d'ajouter une recette toute simple de camembert rôti au four. Alors, accompagné de charcuterie, de légumes ou d'une salade, hein, d'une simple salade, ce camembert, Benoît, vous fera découvrir des saveurs inexplorées.
Mais oui.
Pourquoi le camembert ? Tout simplement parce que nous sommes en pleine saison, parce que le camembert, en fait, se déguste au printemps, et sa saison est donc la saison du printemps, de mars à juin.
D'accord.
Il se consomme, hein, bien sûr, toute l'année, mais il n'est jamais aussi bon qu'au printemps, tout simplement parce que c'est la saison où le lait est d'une bien meilleure saveur. Voilà.
Ah, c'est vrai que... Un bon camembert quand même, Najette, on va pas se mentir. Hein. Je sais que vous êtes la présidente d'Équilibre et moi, l'association d'accompagnement des personnes obèses en surpoids, donc c'est vrai que le camembert, on va pas s'en manger une moitié comme ça à chaque repas.
Non.
Mais quand même, un bon petit camembert avec un bon pain paysan quand même.
Eh bien oui, mais tout à fait, je pense qu'il faut aussi penser au plaisir. Allez, eh bien on y va. Pour 4 personnes, il nous faut un camembert, donc celui que vous préférez, Benoît, affiné ou à point. 4 cuillères à soupe de miel et 250 g de cerneau de noix. Alors là, on a du fromage et du noix, on est sur une alliance irrésistible. Mais si jamais vous n'aimez pas les noix, eh bien vous pouvez les remplacer par des noisettes ou des noix de pécan, par exemple.
Oui, on ne va pas faire les difficiles quand même.
Voilà. On commencera par préchauffer le four thermostat 6-7 à 200 degrés et nous allons retirer l'emballage papier du camembert et nous allons tout simplement remettre le camembert dans sa boîte. Donc on retire l'emballage et on remet le camembert dans sa boîte en bois. D'accord ?
Tout simplement.
Et on va placer la boîte dans un plat allant au four. Là, nous allons répartir les cerneaux de noix sur toute la surface du fromage, puis nous allons arroser le tout de miel.
D'accord.
On enfourne notre camembert pendant 15 minutes jusqu'à ce que le fromage soit complètement liquéfié. Et on sert sans attendre, Benoît. Vous pouvez remplacer les noix par 2 échalotes émincées, par exemple, ou tout simplement par de la ciboulette. Et vous pouvez également, Benoît, ajouter sur votre camembert des lamelles de poire ou de pomme, ou des fruits secs comme des pruneaux ou du raisin.
Ah oui, avec c'est vrai que parfois le mélange fromage-fruits fonctionne bien. J'ai en tête une recette. Alors moi, par exemple, je suis désolé, je vais raconter un peu vite. Je suis pas très friand du Roquefort, par exemple. Mais une fois, on m'a fait goûter une tarte poire Roquefort, et j'avoue que ça m'a pas dégoûté.
Oui, oui, parce qu'on a une alliance sucrée, salée, ouais. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très bon. Ouais.
D'accord, et tout simplement. Alors.
Si vous souhaitez avoir un camembert un peu plus goûteux, n'hésitez pas à le couper en deux dans le sens de l'épaisseur et de garnir de miel, d'échalotes ou de fruits secs ou pas.
Un genre de sandwich de camembert.
Voilà.
Un camembert, ça fait pour combien de personnes, Najette, à peu près ?
Alors, chez moi, c'est pour 6 personnes.
D'accord. Non, mais voilà, on se fait pas un camembert pour deux, quoi, parce que sinon, il y a un peu d'abus, là.
Ouais.
Non,
ouais.
Il faut accompagner avec d'autres choses à côté. Si on a envie vraiment de se lâcher, on peut mettre la charcuterie, les pommes de terre, tout ça.
Oui, voilà.
Si on a envie d'être un peu sérieux, on met des légumes, salade, on fait...
Si vous préparez votre camembert comme ça, en plat, un camembert, ce serait pour 4 personnes, en fait. Vous diviserez votre camembert en 4.
D'accord, tout simplement.
Voilà, tout simplement.
Bon, voilà. Bah écoutez, alors comme d'habitude, on retrouve la recette dans la journée sur la page Facebook des Petits Cuistots, où on retrouve toutes les recettes du Défi Cuisine depuis le début de l'émission, c'est-à-dire le début du confinement. Donc voilà, aujourd'hui, la recette gourmande avec le camembert au four, camembert chaud comme ça, qui est délicieux. Et puis ça vaut le coup aussi, puisqu'on parle de camembert, aussi d'aller lâcher un peu le camembert industriel et d'aller un peu à la rencontre des fromagers qui proposent des camemberts au lait cru qui ont vraiment l'appellation camembert de Normandie et qui ont des saveurs, qui ont développé des saveurs autres que on va pas citer de marque, mais que les camemberts industriels qu'on connaît. Voilà. Mais merci,
je suis
Najette.
Tout à fait d'accord avec vous. Merci à vous. Et je vous dis donc.
Et ben, rendez-vous demain avec Mathieu et puis nous on se retrouvera que mercredi prochain, Najette.
Oui, c'est ça. Très bien. Écoutez, je vous souhaite une très belle journée en tout cas.
Également, merci, Najette. Au revoir.
Au revoir, merci à vous.
Au revoir.
Du lundi au vendredi, 12h-14h, Calade vous donne la parole. Le confinement, ensemble sur les ondes.
Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour votre émission Le Confinement Ensemble sur les ondes. Et j'ai grand plaisir à accueillir maintenant, alors on avait commencé à discuter ensemble la semaine dernière, c'est David Christoffel, vous le connaissez parce que c'est lui qui produit cette excellente émission qui s'appelle Métaclassique. Et on n'avait pas vraiment terminé de discuter avec David. Alors c'est avec grand plaisir que je l'accueille à nouveau en direct sur l'antenne de Calade, depuis chez lui, confiné. J'espère en tout cas que vous allez bien, David. Bonjour.
Mais oui, ça va bien. Bonjour, Benoît.
Depuis la semaine dernière.
Oui, il s'en passe. Ça continue.
Ça va vite, hein, ça va vite. C'est vrai que les semaines de confinement s'enchaînent. Hein. On a du mal à se rendre compte qu'on a déjà 5 ou 6 semaines que nos vies ont un peu changé, mais bon, tout
oui,
ça...
Oui, puis on a des fois même du mal à faire la différence entre les jours de semaine et les jours de week-end maintenant.
C'est vrai, c'est vrai.
On est obligé de dissocier les activités pour créer un rythme hebdomadaire.
Une sorte de pré-retraite peut-être, je ne sais pas.
Oui, ça, c'est une sorte d'entraînement en tout cas.
Alors David, vous présentez et vous produisez l'émission Métaclassique. Je rappelle le principe de l'émission, c'est pour chaque épisode, vous choisissez un mot et puis autour de ce mot, vous construisez un peu comment ce concept, ce mot s'ancre et s'incarne dans la musique classique. Et on avait évoqué la semaine passée quelques initiatives et notamment de jouer pour remercier les soignants, de jouer par exemple à 19h, ce qui avait été proposé par les conservatoires de Lyon et de Paris. Et on a vu fleurir quand même beaucoup, beaucoup de vidéos de musiciens, alors certains très célèbres, hein, on voit les frères Capuçon régulièrement, des vidéos tournées, mais pas seulement, des amateurs aussi qui jouent et qui se filment. Et on a l'impression un peu que la musique... vous savez, il y avait ce groupe on fait grand écart avec la musique classique, hein, mais il y avait un groupe de zouk qui s'appelle Kassav qui chantait Zouk là, c'est le seul médicament nous nie, le zouk c'est le seul médicament dont on a besoin. Et on a l'impression que la musique en ce moment, on en fait presque un médicament dans cette période de confinement. Je sais pas, un antidépresseur pour ceux qui dépriment, oui, du confinement, pas encore un antipaludéen qui pourrait aider pour lutter contre le Covid, mais en tout cas, on donne à cette musique et aux musiciens des vertus totalement incroyables.
Oui, qui est quasi thérapeutique finalement. Et alors que quand la musique peut venir tenter de soigner, elle n'est pas utilisée comme un médicament. C'est-à-dire si, enfin, je crois que l'activité de musicothérapeute a dû s'arrêter justement avant le confinement, puisque il n'y avait plus possibilité de recevoir des patients à proximité en respectant la distanciation sociale. Mmh. Si bien que la Fédération française de musicothérapie a annoncé arrêter ses activités quelques jours avant le début du confinement. Et c'est vrai que ce que nous disent bien les musicothérapeutes, c'est que la musique ne guérit absolument ni du coronavirus, ni de la grippe, ni de quelque pathologie que ce soit. Peut apaiser, elle peut soigner à l'intérieur d'une relation thérapeutique à trois termes, entre un patient, un thérapeute, et où la musique vient intervenir comme un support, mais elle n'a pas de principe actif en tant que tel. Donc il faut se méfier quand même des discours qui parfois tendent à, comme je dis souvent, à médicaliser notre rapport à la musique, parce qu'on a besoin précisément que la musique soit un plaisir gratuit, même pour qu'elle nous apporte quelque chose de positif, voire de réconfortant.
Est-ce que ce lien entre la musique et le soin, quelque part, alors bien sûr, on parlait de musicothérapie, où là, du coup, le lien est vraiment établi, mais dans le cadre d'une relation thérapeutique, hein, il ne suffit pas d'être musicien pour être musicothérapeute. Mais est-ce que finalement, un des premiers soins qui a préexisté à tous les autres, c'est pas celui de la transe qu'on a retrouvé dans le chamanisme et qu'on retrouve aussi dans l'hypnose, enfin en tout cas cette la transe, et que la musique en elle-même est quelque chose qui est capable de provoquer des transes et provoquer un état second, provoquer un autre état de conscience parfois, et de nous faire vivre d'autres expériences que la simple expérience de veille.
Ah bien sûr, c'est-à-dire elle peut nous mettre dans des états que l'on contrôle à peine et qu'on contrôle tellement à peine que c'est difficile de le réduire justement simplement à quelque chose de l'ordre du de la guérison ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que le chamanisme peut pas se réduire à quelque chose de médical et la musique en revanche est toujours associée au chamanisme, mais elle n'est jamais la seule chose qui se passe et c'est pas quelque chose qu'on peut forcément introduire chez soi comme ça dans son salon simplement en mettant un disque. C'est tout un contexte aussi, une relation de transe qui se tisse entre musique, chamanisme et, donc c'est des choses oui, qui sont souvent plus complexes que ne nous le laissent penser ces discours qui nous donnent à consommer de la musique simplement là comme ça pour nous apaiser quand on est tout seul chez soi confiné. Dire que c'est pas forcément les situations les plus propices pour se mettre en transe.
Mais en même temps, certains morceaux, parfois, on peut avoir... alors, je pense pas le même morceau pour tout le monde, mais quand on trouve son morceau, quand on trouve son interprète, et même si on ne fait qu'écouter un disque, parfois, voilà, ça crée des choses intérieurement. Et je pense que ce pouvoir-là, du coup, est assez particulier. Et c'est ce qui peut peut-être pousser à un moment à faire des raccourcis en disant ben, que ben, la musique serait un anxiolytique ou que ce serait la musique qui fait du bien. Mais est-ce que c'est pas plutôt à un moment que la musique, elle touche directement aux émotions?
Oui, mais vous faites bien
cet aspect émotionnel. Oui, certains, oui.
Oui, mais c'est-à-dire que c'est des morceaux qu'on choisit. C'est des morceaux avec lesquels on a une relation élective ou bien on a des ancrages affectifs avec ces morceaux parce qu'ils sont associés à un souvenir personnel, parce qu'on a vécu quelque chose de fort avec eux, où il y a un jeu de cristallisation qui a fini par se construire. Mais ça veut bien dire que ça peut pas être prescrit. C'est pour ça que moi, je regarde avec beaucoup de méfiance ces espèces de playlists de musique relaxante où justement, on présente la musique classique comme... une sorte de bulle de bien-être parce que en plus de se baser quand même sur quelque chose qui évacue la dimension personnelle de ce qu'on peut vivre avec telle ou telle œuvre, ça tend aussi à donner de la musique classique une représentation extrêmement réductrice parce que la musique classique est beaucoup plus variée que simplement une collection de morceaux apaisants. Du reste, le fragment apaisant va se trouver le moment lent, très détendu au milieu par exemple d'un concerto lui va être une succession de moments plus vifs, de moments plus lents. Vous avez par exemple les concertos pour piano de Mozart. Les musicothérapeutes ont très vite utilisé les mouvements lents de ces concertos dès les années 70 alors que par définition un concerto c'est une traversée qui passe par des stades émotionnels variés. Donc la musique quand elle est œuvre, elle nous fait passer par des émotions différentes, alors que tous ces discours apaisants, quand par exemple vos assistants vocaux vous proposent de la musique relaxante, ça consiste à juste isoler le moment relaxant, alors que dans l'expérience musicale, il n'y a jamais que ça.
Finalement, en vous écoutant David Christoffel, je me dis que peut-être ce qui favorise la stabilité en tout cas de l'esprit, c'est plutôt d'être connecté à toute sa palette d'émotions et pas simplement à la relaxation ou à ce qui est positif, mais de vivre toutes les émotions et de pouvoir être traversé par toutes les émotions sans pour autant vaciller et être déséquilibré. Et c'est ça que nous permet la musique, c'est de pouvoir avoir accès à toute cette palette d'émotions et pas simplement le relaxant, mais aussi l'angoisse, aussi la colère et toutes ces choses qu'il faut aussi accepter de vivre.
C'est le paradoxe du lâcher-prise, c'est-à-dire que si on joue le jeu du lâcher-prise, on ne sait pas où ça nous mène. Et d'une certaine façon, c'est bien ce que l'expérience esthétique peut privilégier, c'est de nous amener à des endroits qui ne sont pas prévus, qui peuvent même éventuellement être dangereux. Justement, pour critiquer un peu tous ces discours sur la musique médicalement prescrite, j'avais fait un livre qui s'appelait « La musique vous veut du bien » il y a quelques mois, et dans lequel je finissais par un chapitre qui s'appelait carrément les méfaits de la musique, parce que il n'est pas impossible qu'à un certain moment elle nous rende carrément neurasthénique ou elle nous surexcite à un point qu'on n'avait pas forcément voulu. Enfin, bref, on peut vivre avec elle aussi des choses plus ou moins bonnes pour la santé. Oui.
Eh bien, je vais vous suggérer, David Christoffel, excusez-moi, d'entrevoir la possibilité de commencer aussi une émission de philosophie, parce que finalement, il y a des...
Ça nous fait penser, de toute façon, donc oui.
C'est vrai que, en tout cas, c'était important de rappeler ces choses-là autour de la musique, que c'est pas ça qui va nous sauver, mais en tout cas, ça peut nous aider à un moment aussi à développer certaines émotions dont on se serait coupé, des choses qu'on a envie de vivre, et puis simplement de prendre un bon moment. C'est un moment pour soi aussi, un moment pour être présent à ce que l'on écoute, et d'être dans le moment présent, et ça, c'est déjà pas mal.
Mais constatez quand même que du point de vue de l'histoire de la musique, écouter de façon solitaire une œuvre, c'est une expérience qui nous est donnée depuis finalement assez peu de temps. C'est-à-dire depuis qu'on a des phonographes, depuis qu'on peut écouter la musique sur un support qui est le disque, et ça existe seulement depuis la fin du 19e siècle. Avant, chaque fois qu'on écoutait de la musique, on ne pouvait pas être seul. Il y avait au moins le musicien avec nous qui la jouait pour nous, sauf si on la jouait pour soi-même tout seul. Mais sinon, c'était forcément de l'écoute partagée.
En tout cas, on vous remercie pour cette intervention en direct dans notre émission Le Confinement Ensemble sur les ondes. On rappelle que Méta Classique, c'est sur Calade le mardi à 21h.
Puis
on retrouve aussi, si on a envie de retrouver les anciennes émissions, sur le site de Méta Classique, dont le lien sera dans le podcast du jour.
Merci beaucoup.
Allez, à très bientôt David,
à bientôt,
très bonne journée à vous.
Lundi au vendredi, 12h-14h, Calade vous donne la parole. Le confinement, ensemble sur les ondes.
Jusqu'à 14h, nous sommes ensemble. N'oubliez pas qu'à 13h, vous avez rendez-vous avec l'info sur Calade. À 13h pile, ce sera le journal de RFI pour l'information locale et régionale. Et puis, vous aurez ensuite rendez-vous vers 13h10 avec le journal local de Sylvie Rosier. En attendant, nous allons accueillir Julien Dupéret, qui est le directeur de l'Oasis, qui se situe à Glézé. C'est un peu comme si on avait fait une journée Glézé un peu aujourd'hui, puisque tout à l'heure, on était en conversation avec le maire de Glézé, Guylain Nongé. Et c'est vrai que alors l'Oasis, c'est une institution dans notre bassin de vie. C'est un lieu que tout le monde a fréquenté au moins une fois, que ce soit pour aller acheter des fromages de chèvre, pour aller déposer des choses, des affaires au bric-à-brac, ou alors pour aller flâner dans le bric-à-brac. Il y en a qui sont fourrés deux fois par semaine, d'autres une fois par semaine. C'est un lieu particulier, l'Oasis. Et moi, je n'ai pas peur de le dire, c'est un lieu qui commence à me manquer un peu, parce que moi, j'y ai mes habitudes. Et j'ai hâte de pouvoir retrouver en toute sécurité l'ambiance de l'Oasis aussi, le plaisir de chiner, de trouver des trésors parfois, de trouver un livre qu'on avait envie de lire et puis voilà, qu'on peut retrouver à l'Oasis. C'est vraiment un lieu marquant et un lieu qui manque. Et donc c'est avec grand plaisir que j'accueille Julien Dupéret. Bonjour monsieur le directeur de l'Oasis.
Bonjour à vous et merci pour tous ces gentils mots, mais vous nous manquez aussi beaucoup. Tous les visiteurs de l'Oasis en tout cas nous manquent beaucoup dans cette période.
Mais oui, j'imagine que ça commence à faire long un peu pour vous.
Exactement, ouais. Donc effectivement, ça a été un peu un bouleversement, ce confinement, mais comme partout dans la société. Mais du coup, à l'Oasis, qui est un lieu où habituellement le monde grouille, c'est-à-dire où il y a beaucoup, un petit écosystème humain avec beaucoup de gens qui se croisent, on se retrouve dans une certaine solitude. Dans un confinement un peu particulier, puisqu'on est confiné en collectivité, donc c'est pas rien. Voilà. C'est avec 35 résidents qui sont accueillis aujourd'hui.
Alors on rappelle, l'Oasis avant tout, c'est un lieu de vie en communauté pour des hommes.
Ouais. Pour des hommes sans abri ou en difficulté d'insertion, qui sont hébergés, qui ont un accompagnement social et puis qui sont tous en activité sur le site, donc ou dans tout ce qu'on appelle les ateliers de la maison, cuisine, ménage, etc. La recyclerie ou l'exploitation agricole.
Et l'Oasis, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est aussi une caverne d'Ali Baba, mais bien organisée quand même. Il ne faut pas faire fouiller de partout, c'est organisé. On peut trouver des tas de choses, de la vaisselle, de l'électroménager, des jouets, des vêtements, des livres, de la mercerie, des disques vinyles. Enfin voilà, c'est en ça que je dis que c'est une caverne d'Ali Baba, parce qu'on peut y trouver des vrais, vrais trésors. Alors parfois, on peut être bredouille pendant 6 mois et rien trouver qui nous intéresse. Et puis, sur l'espace d'un mois, semaine après semaine, chaque semaine, trouver des magnifiques trésors. C'est comme ça, c'est un peu le jeu à l'Oasis. Vous vivez, du coup, grâce à toutes ces activités et des dons en matériel qui vous sont faits.
Tout à fait, on vit à 80% de ce qu'on produit, donc de la collecte, la revalorisation de tous les dons d'objets, et puis des activités agricoles, donc de la vente de fromage, de légumes, et puis le reliquat, c'est 20% de subventions.
Donc
c'est un modèle économique qui est ambitieux, parce qu'il essaye de s'affranchir des subventions, et qui en même temps touche toutes ses limites dans la période actuelle.
Et oui. Alors, pour on va dire sur la partie confinement et la partie lieu de vie de l'Oasis, comment vous êtes organisé avec toutes les personnes qui vivent à l'Oasis pour tenir ce confinement mieux? Est-ce que vous pouvez aussi nous dire si tout le monde est en bonne santé à l'Oasis, en tout cas?
Oui, alors je vais commencer par ce point-là. Aujourd'hui, tout le monde est en bonne santé. Donc, on a la chance de ne pas avoir de malade, de ne pas en avoir eu. Après, c'est la question du hasard, c'est la question aussi d'un certain nombre de règles et de précautions qui ont été prises. Mmh. Nous, notre première préoccupation, ça a été de dire l'Oasis, c'est un lieu où des gens vivent et d'autres travaillent, et il faut qu'on arrive à les protéger. Donc, le premier étape du confinement, ça a été de dire à tous les bénévoles, les 60 bénévoles qui sont habituellement à l'Oasis, qu'ils ne viennent plus la durée du confinement. Donc on s'est retrouvé entre les communautaires et une poignée de salariés pour passer cette période, avec cette préoccupation quand même sanitaire en premier lieu, bien évidemment, puisqu'on a 35 personnes accueillies avec des pathologies de santé pour certains, avec des âges, avec des fragilités en tout cas, et que notre enjeu, il était d'éviter à tout prix une contamination ici, ou des gens malades en tout cas.
Et alors,
beaucoup de protocoles. Oui, pardon.
Oui, je souhaitais vous demander, du coup, dans toutes les activités de l'Oasis, quelles sont celles que vous avez réussi à maintenir et quelles sont celles que vous avez dû fermer alors ?
On a dû, par la force des choses, fermer la partie recyclerie, c'est-à-dire le magasin, le bric-à-brac, mais tout ce qui se trouve en amont, la collecte des objets, le recyclage, parce que les filières recyclage sont bloquées, parce qu'on ne voulait pas non plus laisser des gens venir déposer pendant la période chez nous. Voilà. On a maintenu bien évidemment l'activité agricole avec les animaux, donc qui demandent une attention quotidienne, donc la fabrication de fromage également. On a adapté le modèle de la fromagerie avec des précommandes sur notre site internet et des retraits sous forme de drive.
Donc on peut toujours profiter du fromage de chèvre de l'Oasis, ça c'est important de le dire.
Ouais.
Et que,
en commandant sur notre site. Et puis
les choses ont été organisées pour que ça ne présente aucun risque pour les clients. Ni pour les personnes qui travaillent.
Exactement, tout à fait.
Donc concrètement, comment on fait si on veut acheter du fromage de chèvre à l'Oasis ?
Il faut se connecter sur le site internet de l'association, donc association-oasis.com, et puis il y a un formulaire de commande de fromage.
D'accord,
et
tout simplement.
Et là, on vient retirer sous forme de drive.
D'accord.
On est également présent les lundis après-midi de 14h à 18h chez Arcambio, chez Frédéric Nem, qui est un maraîcher d'Arnas.
Arnas, oui, on l'a eu à l'antenne, oui.
Bon, ben voilà.
D'accord.
Il nous accueille gentiment pendant cette période aussi.
Ce qu'on fera, Julien Dupéret, je rappelle que vous êtes directeur de l'Oasis, c'est que peut-être après la date, la fameuse date du 11 mai, on reprendra contact avec vous pour savoir, du coup, est-ce que vous avez pu envisager une réouverture partielle des services de l'Oasis et de comment les choses sont organisées, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, c'est difficile de le dire.
Bah, c'est un peu compliqué suite aux annonces d'hier, donc on attend un peu que le temps passe. On va prévoir, nous, les scénarios de réouverture, alors toujours avec cet enjeu de pouvoir redémarrer l'activité qui permet de financer l'accueil des personnes, en fait, hein, c'est l'objet principal chez nous, mais aussi cet enjeu de protéger la santé de tout le monde, et notamment de nos communautaires. Ouais.
Mais en tout cas, je vous remercie, Julien Dupéret, pour toutes ces informations importantes. On reprendra très prochainement contact avec vous pour en savoir plus. Et on se permet de souhaiter à tous les communautaires et tous les salariés de l'Oasis bon courage.
Un grand merci.
13h.
Lundi au vendredi, 12h-14h, Calade vous donne la parole. Le confinement, ensemble sur les ondes.
Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour votre émission quotidienne Le Confinement Ensemble sur les ondes. Chaque semaine, nous avons pris l'habitude d'appeler un résident ou une résidente des Jardins d'Arcadie. C'est une résidence pour seniors. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Marcel Dupuis. Bonjour monsieur.
Bonjour, monsieur.
Comment allez-vous, monsieur Dupuis ?
Ça va comme un confiné.
Comme un confiné, oui.
Et ça va pas mal du tout.
Ça va pas mal du tout. Ouais. Alors, comment vous vivez ce confinement, monsieur Dupuis ?
Moi, personnellement, je le vis très bien, parce que j'ai un tempérament qui s'y prête.
Oui.
Voilà, alors... On est servi, on est choyé comme des coques en pâte, alors c'est pas pénible, vous comprenez ?
D'accord. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui vous manquent pendant cette période de confinement, monsieur Dupuis ?
Ah, ben, la rue nationale.
Ah, la rue nationale.
Parce que c'était ma promenade favorite. Je ne connaissais que ça de Villefranche. La rue nationale en long et en large. Et vous... Alors maintenant, depuis 2 mois bientôt, je ne peux plus y aller, alors je languis.
Est-ce que vous sortez quand même un peu pour prendre l'air, malgré tout ?
Ah, ben je sors tous les jours. Je sors tous les jours, mais je reste dans l'enceinte des jardins d'Arcadie.
D'accord.
Je ne sors pas à l'extérieur. Voilà.
Donc vous prenez l'air quand même tous les jours ?
Tous les jours, je fais une heure, trois quarts d'heure, une demi-heure, deux demi-heures, un quart d'heure, 20 minutes de marche.
D'accord.
Autour de la cour, autour des bâtiments, voilà.
Et est-ce que, du coup, vous arrivez quand même à avoir des contacts avec votre famille, avec vos proches
Avec le téléphone, bien sûr.
Avec le téléphone, oui.
Oui, parce que mes enfants m'appellent. Parce que moi, j'ai un téléphone, j'ai deux téléphones même, mais ils ne sont pas équipés de touches appel.
Ah bon ?
Je n'ai que la touche sur mes téléphones, je n'ai que la touche réception.
D'accord.
Alors, il faut, si mes enfants veulent m'entendre, il faut qu'ils m'appellent.
D'accord, sinon vous pouvez pas les appeler.
Non, je ne fais pas l'effort de les appeler. Voilà.
D'accord.
Vous n'avez pas compris, là.
Si, j'avais compris, vous êtes un peu à la vieille école, disons que c'est les plus jeunes d'appeler les plus anciens.
Non, c'est pas pour ça, mais disons, c'est de la négligence de ma part.
Ah, voilà. D'accord.
Alors, j'ai trouvé cette excuse de leur dire que mes téléphones n'étaient pas munis de la touche appel. Et comme je suis nul avec tout ce qui est informatique et compagnie, alors mon histoire de téléphone qui n'a pas la touche... Ça passe très bien, finalement.
Mais maintenant, s'ils nous écoutent, alors vos enfants, ils vont le savoir.
Ah, ben, bien sûr, mais je les ai alertés pour qu'ils entendent leur père.
Du coup, c'est loupé maintenant. Vous allez plus avoir d'excuses, vous allez être obligé de les appeler maintenant.
Oh, ben je t'aurai bien une excuse, je sais pas. On verra bien. On va chercher.
Alors, et pour, j'allais dire, vos courses du quotidien,
Les courses du quotidien, J'ai une fille qui habite dans le secteur, là, à Clézé, qui peut s'en charger.
D'accord.
Et qui le ferait volontiers tous les jours, même 4 fois par jour.
Mais vous avez de la chance.
D'autre part, il y a un système d'approvisionnement qui a été instauré par la direction là, des jardins d'Arcadie. Oui. Un système de drive.
D'accord.
On commande une fois par semaine, on commande à Jardin City. C'est pas Jardin City, c'est Carrefour City.
D'accord.
Et puis, mais alors je devrais peut-être pas faire dire les noms des fournisseurs parce que je fais de la publicité là.
Oui, on va éviter de faire de la publicité, mais c'est pas grave. Maintenant, c'est fait, hein, c'est en direct.
Oui, pour les. de toute façon, c'est un débutant qui fait ça, alors c'était l'excuse.
Mais il n'y a pas d'âge pour commencer.
On a également d'autres drives qui sont organisés pour des plats préparés, pour des légumes, pour des fruits, etc.
D'accord.
Disons que la direction de l'établissement, enfin, et tout le personnel s'occupe particulièrement bien de nous.
Donc voilà. Vous ne souffrez pas particulièrement de cette période. Vous trouvez que c'est plutôt bien organisé autour de vous, alors ?
Pas du tout, mis à part de pas pouvoir sortir de l'enceinte de l'établissement. Mmh. Mais comme on n'est pas confiné dans la chambre... on a quand même, on peut prendre l'air dehors.
Oui, quand même.
On peut voir les collègues hommes ou femmes qui tournent en rond eux aussi. Alors en tournant en rond, on peut éventuellement échanger quelques paroles.
D'accord. Donc les choses sont bien organisées pour vous.
On n'est pas trop malheureux.
À part votre grande rue nationale qui vous manque.
Voilà, la rue nationale avec tous ces magasins, ça me manque beaucoup, beaucoup.
Et peut-être parfois vous aviez l'habitude de vous arrêter dans une brasserie ou dans un café pour prendre un petit café ou quelque chose, un thé.
Rarement.
D'accord.
Je ne fréquente pas des lieux comme ça.
Ah bon, vous êtes...
Oui. Je ne fréquente pas ces lieux, surtout tout seul. Alors, donc...
Parfois, pour profiter du beau temps en terrasse, c'est agréable quand même.
Oui. Non, mais j'avais ce qu'il fallait à la maison.
D'accord. Mais en tout cas, on vous remercie de nous avoir donné un peu de vos nouvelles et de savoir comment vous viviez les choses, monsieur Marcel Dupuis. Je peux vous demander votre âge ou ce serait impoli?
Mon âge?
Oui.
Mais vous savez que c'est drôlement indiscret, ça.
Ben oui, c'est pour ça, je vous demande
vais
avant.
Vous donnez ma date de naissance, vous vous débrouillerez pour chercher l'âge.
D'accord.
Vous n'aurez qu'à prendre un crayon et un papier et vous ferez la soustraction.
Vous étiez prof de mathématiques, non?
Pardon?
Vous étiez prof de mathématiques?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
J'ai mon certificat d'études.
D'accord. Alors, vous êtes né en quel...
Alors, c'est pour ça que j'étais bon en calcul.
En calcul.
C'est tout ce que je savais faire.
Alors, vous...
Alors, je suis né le 26 mars de l'an de grâce 1926. Je suis conscrit avec la reine d'Angleterre.
Ah.
Je suis conscrit avec monsieur le président Giscard d'Estaing.
D'accord.
J'ai été conscrit également avec monsieur Bocuse.
Ah.
Vous voyez, il n'y avait que des gens célèbres cette année-là.
Oui, je vois ça, il n'y avait que des grandes personnes.
Et puis moi.
Eh bien, voilà. on va laisser un peu de chance à nos auditeurs et à nos auditrices de calculer votre âge. Vous êtes né en 1926.
Voilà, exactement.
Vous avez eu votre anniversaire il y a un mois.
Maintenant, les gens sont moins forts en calcul mental parce qu'ils n'en font pas à l'école. Ils ont la calculette.
Eh bien, on va laisser planer le mystère. Alors, vous êtes né, vous avez fêté votre anniversaire il y a un mois, c'était le 26 mars, et vous êtes né en 1926. On n'en dira pas plus. D'accord, monsieur Dupuis?
On n'en dit pas plus, c'est ça.
Mais en tout cas, on vous souhaite une très bonne fin de semaine et une très bonne fin de journée. On vous remercie pour votre participation à l'émission.
Je vous en prie. C'est une participation bien modeste et bien... Oui.
Allez, bonne
journée.
Très, très bonne journée à vous, monsieur Dupuis.
Merci, vous aussi. Au revoir.
Au revoir. On fait une petite pause en musique et on se retrouve juste après avec Georges Boton pour Mai la 11e. Cranberries sur Calade avec Linger.
Calade. Le confinement, ensemble sur les ondes.
Le confinement semble sur les ondes, c'est jusqu'à 14h et nous avons le plaisir de retrouver la chronique Mai, la 11e, avec le capitaine Georges Bouton. Salut Georges.
Bonjour Benoît, merci pour le capitaine.
Je sais pas, Nouvelle-Orléans, comme ça, ça me faisait le capitaine de la Nouvelle-Orléans, j'en sais rien.
Capitaine du bateau à vapeur.
Voilà, un peu...
Alors tu sais, le monsieur qui passait avant, que tu as interviewé avant,
oui,
qui citait ses conscrits célèbres,
oui,
bah moi j'ai une conscrite hyper célèbre, c'est Brigitte Bardot.
Ah bon?
Et voilà, tu vois.
C'est, oui, c'est pas rien quand même. Hein.
Comment?
Je dis, c'est pas rien quand même.
Bah c'est pas rien. Alors il paraît, ça, il faudrait que je demande, tiens, à mes amis de la classe, je m'en rappelle plus, mais je crois bien que pour les 20 ans ou les 30 ans, on voulait l'inviter au banquet.
Ah.
Le banquet des conscrits qui est strictement masculin et ça avait été refusé catégoriquement.
Ah bon.
Mais je demanderai le exactement.
Bon,
et voilà, ben, bon ça, allez, on n'est pas là pour parler.
Ça se trouve, ta vie aurait été différente, Georges. Hein.
Comment?
Je dis, ça se trouve, ta vie aurait été différente. Je sais pas, le coup de foudre avec Brigitte Bardot.
Ah ben, on ne sait jamais.
On ne sait jamais. Comme
sait jamais.
Mais maintenant, c'est trop tard. L'histoire est écrite mais, ainsi.
Je l'aurais plein, dis donc, la pauvre fille. Bon, allez.
Alors Georges, qu'est-ce que tu nous as prévu aujourd'hui?
Moi j'ai prévu un petit Pierre Dac, quoi, pour
pas
oublier ce brave homme qui a écrit « Le comble pour un metteur en scène distrait, c'est de mettre une comédienne enceinte au lieu de la mettre en scène, ce qui toutefois et de toute manière n'est pas incompatible. »
Ah, oui.
Et puis alors c'est Adam qui se promène avec Ève dans le jardin d'Éden, au paradis, et à un moment, Ève... regarde Adam avec un regard amoureux, elle lui serre très fort la main et elle lui dit « Est-ce que tu m'aimes ?» Alors il y a Adam qui la regarde complètement surpris avec un air complètement abruti et lui dit « Est-ce que j'ai le choix ?»
Eh oui, bonne question.
Bonne question. Et puis alors ça, c'est un employeur qui a dû recevoir cette lettre une fois. Cette place irait très bien à mon mari, qui est très bon bricoleur. Nous avons eu 7 enfants en 9 ans de mariage.
Ah oui,
voilà.
Effectivement.
Alors pour revenir quand même, il faut qu'on en vienne au jazz quand même, qui est
oui,
le
quand
de
même.
L'émission, ou de la 11e, c'est la 30e aujourd'hui.
D'accord.
C'est la 30e. Alors je vous ai choisi, chers amis auditeurs et chers amis auditrices, un grand classique du New Orleans qui s'appelle Weary Blues et qui est interprété par Tommy Lanier et son orchestre. C'est un enregistrement du 28 novembre 1938. Il comprend 7 musiciens. C'est plein de dynamisme et de swing. Alors vous pourrez comparer, vous pourrez constater, pardon, jusqu'à, j'ai un peu disséqué le morceau, j'adore faire ça d'ailleurs. Jusqu'à 1 minute 19, il y a un superbe trio avec Tommy Lanier à la trompette, Sid Desbechet saxo-soprano et Milton Mesbezro à la clarinette. C'est absolument superbe. Tommy Lanier joue un jeu de trompette très solide, très traditionnel, sans fioritures, mais avec une grande rigueur. Et alors Bechet et Mesbezro, il y a un entrecroisement des lignes mélodiques qui est très agréable. Ensuite, de 1 minute 19 à 2 minutes, il y a un très beau solo de Sidney Bechet. Alors là, je crois que c'est la clarinette, mais Sidney Bechet avait une sonorité tellement belle au saxo-soprano que c'est parfois difficile de reconnaître la sonorité entre les deux instruments. De 2 minutes à 2 minutes 30, il y a un beau solo de Tommy Lanier à la trompette.
Très
alors
bien.
Tommy Lanier, puis c'est le responsable du groupe, c'est un musicien qui est né en 1900, et il est décédé en 1939, donc il a vécu 39 ans. Il est mort d'une crise cardiaque, d'ailleurs, en étant dans l'appartement de Milton Mesbezro. Et c'était un incomparable interprète de blues. C'est du pur jus Nouvelle-Orléans.
Eh bien, on va l'écouter,
il a
alors.
Avec beaucoup de chanteuses, en particulier Bessie Smith. Voilà.
Et donc, alors, le morceau choisi, c'est...
Bien, je peux saluer les amis auditeurs et amis auditrices.
Bien sûr.
Et puis, on peut... enclenché Weary Blues par Tommy Lanier et son orchestre. Thank you.
c'est le choix de Georges Bouton pour sa chronique, mais la 11e.
Calade.
Le confinement, ensemble sur les ondes.
Il est grand temps de retrouver Charline Simian pour la chronique nutrition. Charline Simian qui est diététicienne et que vous retrouvez habituellement dans l'émission Parlons Nutrition. Bonjour Charline.
Bonjour à tous.
Comment allez-vous Charline ?
Eh bien ça va bien, merci. Et vous ?
Ben, ça va bien aussi. On jongle là avec tout d'un coup grand soleil, après tout noir. Alors j'allume, j'éteins la lumière, c'est un peu bizarre.
C'est vrai que ça doit être propice pour tout ce qui est plantation et surtout pour la pousse du gazon en ce moment.
Eh oui. Alors Charline, on le sait, bon, il y a normalement un début de déconfinement qui est annoncé le 11 mai, sauf si, comme l'a dit le Premier ministre, les indicateurs ne sont pas ouverts, à savoir s'il y a une reprise un peu de l'épidémie et que nous ne sommes pas rigoureux dans le respect des consignes de confinement. En tout cas, pour beaucoup de personnes, ça veut dire aussi se projeter un peu dans l'après et commencer, même si on ne sait pas trop ce que va être l'après, en tout cas de commencer un peu à se projeter et se dire comment on va s'organiser pour la suite. Et au point de vue de l'alimentation, là aussi, il est peut-être temps de commencer à réfléchir à l'après.
Tout à fait. C'était un petit peu le débat et le sujet que je souhaitais aborder aujourd'hui. C'est, on a maintenant une date, alors qui est fixe ou qui ne l'est pas, ça on le verra, l'avenir nous le dira, mais c'est vrai que ça peut être aussi l'occasion, maintenant qu'on a pris un certain rythme, maintenant qu'on a peut-être encore le temps de se poser la question, de se dire et comment je vais faire pour l'après, pour essayer, si on avait des travers, parce qu'on n'en avait pas forcément, de dire je vais peut-être pas retomber dans mes travers. Vous savez, le fameux mon Dieu, c'est l'heure de manger, mais qu'est-ce qu'il y a dans mon frigo, qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger, tiens je vais faire des pâtes.
C'est tout à fait ça.
Voilà, mais on en est tous réduits parfois à ça. Et pour limiter un petit peu ça, je trouve que ça peut être intéressant de partir à l'heure actuelle, qu'on a encore un petit peu le temps, soit sous un format où je vais faire peut-être des plus grandes quantités, si j'ai la possibilité de stocker, par exemple, dans un congélateur, de bien étiqueter sur les barquettes, et puis de bien noter la date, de bien noter le nombre de portions, de bien noter ce qu'il y a dedans. Mais finalement, d'accord, on peut tout à fait, effectivement, prévoir 2, 3, 4 portions supplémentaires. Alors, la petite astuce diététique, c'est de ne pas apporter le plat de service avec ces 4 portions supplémentaires sur la table. Pardon. Parce que du coup, là, on a un risque qu'il ne reste plus que 2 portions là où il y en avait 4.
Et oui.
Voire plus du tout s'il n'y avait qu'une seule portion de rab.
Donc, à la limite, on fait 2 plats différents, hein, qu'on va garder pour stocker et un qu'on va mettre sur la table.
Voilà, déjà prélever éventuellement ce qu'on avait prévu de faire en trop pour éviter le fameux « oh bah il reste que ça, on va le terminer
»,
qu'on connaît tous à peu près. On peut prédécouper des choses, on peut aussi les précuire. On essaye de faire des choses plutôt neutres, c'est-à-dire que je vais par exemple acheter 1,5 kg de courgettes que je vais préparer, que je vais couper, que je vais pré-cuire, on appelle ça blanchir dans le jargon technique. On va pas les cuire totalement, mais on va les pré-cuire, ce qui permet de les conserver aussi. Et puis de se dire, je vais les associer, alors une fois avec du poulet, une fois avec ci, une fois avec là. La viande, on ne la pré-cuit pas, mais ça peut permettre de faire un accompagnement qu'on va pouvoir varier selon les jours et qu'on aura de tout près. Donc c'est les petites choses qui sont assez intéressantes.
Tout simplement.
Si on met dans des boîtes hermétiques, par exemple, ça se conserve assez bien finalement.
Super, c'est bien de pouvoir anticiper, puis effectivement, comme on va être reconfronté à un nouveau quotidien, une nouvelle réalité après, d'avoir un peu assuré les arrières, d'avoir assuré au moins ce qu'on va manger, c'est une bonne chose. Déjà, c'est du temps et de la charge mentale gagnée.
Tout à fait. Et puis, on voit bien qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, notamment pour les enfants, au niveau des enfants qui resteraient, par exemple, à la cantine. Pour les parents qui faisaient déjà à manger hors cantine, c'est finalement retourné dans leur routine. Mais pour les parents qui avaient l'habitude de les envoyer à la cantine, là, il est fort probable qu'on soit obligé de leur amener à manger. Et donc, du coup, ça demande aussi de la cuisine en plus. Donc, anticiper ça en prenant le temps de faire en plus grande quantité et de prendre ces petites l'habitude de pré-préparer finalement. Souvent au cabinet, on me dit oui, ben, je fais des pâtes parce que ça va plus vite. C'est pas toujours le cas. Si on a déjà pris le temps peut-être de cuisiner un petit peu plus longuement le week-end par exemple, oui. Ben, ça permet aussi de l'économie de temps sur la préparation des repas en semaine.
Merci en tout cas Charline pour ces bons conseils pour bien commencer à préparer la sortie de confinement et la nouvelle réalité qui va être la nôtre dans deux semaines normalement. Donc effectivement, c'est bien de profiter encore du temps qu'on a pour anticiper, pour préparer des choses, pour éviter de se retrouver dans l'urgence et faire un peu n'importe quoi du point de vue alimentaire. On se retrouve, alors pas vendredi, parce que vendredi ce sera le 1er mai, Charline.
D'accord.
Mais la semaine prochaine, même heure, même endroit.
Sans problème.
Et nous, on va faire une petite pause musicale avec tout simplement What a Wonderful World. Vous êtes à l'écoute de Calade.
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Sam Cooke sur Calade avec What a Wonderful World.
Calade.
Du lundi au vendredi, 12h-14h, Calade vous donne la parole. Le confinement, ensemble sur les ondes.
Le confinement ensemble sur les ondes, c'est jusqu'à 14h sur Calade. Alors, nous, on se retrouve à partir de mercredi prochain. Demain, vous aurez rendez-vous avec Eddy Bernard. Mais là, il est grand temps de retrouver David Petit-Laurent, alias DPL, de Recto Verso, hein, l'émission qui retourne la Calade. Alors, la dernière fois qu'on a échangé avec DPL, eh bien, il m'avait lancé quelques défis. Et les fameux cap, pas cap de Recto Verso. Et heureusement pour moi, la fin de l'émission avait retenti et j'avais pas pu aller jusqu'au bout des défis. Enfin, bonjour DPL, je suis ravi de te retrouver sur l'antenne de Calade. Comment vas-tu ? Bonjour DPL, je n'ai pas entendu DPL. Bonjour.
Ah, est-ce que tu m'entends ? Allô, allô ?
Ah, ça y est, il est là, DPL. Oui.
C'est vrai qu'au début, je t'entendais pas très bien, mais là, je t'entends très bien. J'espère que tout le monde m'entend aussi.
Ben, moi aussi, j'espère.
Parfait. Donc oui, c'est vrai que la semaine dernière, tu as été sauvé par le gong, par le top horaire de 14h. Et je t'avais prévu plein de cap pas cap, mais j'ai bien compris que tu avais peur.
Oh, peur. Pas vraiment quand même, pas du tout même, je dirais. Tu sais, ce sont, comme on dit, les aléas du direct, hein, car cette émission spéciale confinement, elle est réalisée en direct, et puis parfois, ben, la gestion du timing est un peu serrée, et si certaines séquences débordent un peu, ben, d'autres, elles doivent être raccourcies. On ne peut pas dépasser l'horaire. 14h, c'est 14h, il y a le top horaire, on s'arrête.
Ouais. Le respect de l'horaire à bon dos. Enfin, si tu crois que je vais passer à autre chose aussi facilement, c'est mal me connaître. Hein, parce que mon compère de Recto Verso, Eddy Bernard, pourra te le confirmer, je ne suis pas du genre à lâcher quelque chose qui me tient à cœur. Pour preuve, hein, ça fait 3 ans que je le tanne pour qu'on fasse une émission spéciale sur ABBA.
Laisse-moi deviner, Eddie n'est toujours pas cap de faire une émission avec tous les tubes d'Abba.
Exactement, oui, il n'est pas cap, soi-disant que ce n'est pas de la vraie musique, sous prétexte qu'à la fin du concert, il ne fracasse pas une guitare. Bon, en même temps, dans Abba, il ne joue pas de la guitare, donc forcément, c'est plus difficile de casser une guitare à la fin du concert. Et d'ailleurs, dans la compagnie créole, ils jouent de la guitare, et de mémoire, à la fin de leur concert, ils n'exposent pas leur guitare. Donc CQFD pour dire qu'il n'y a pas besoin de casser une guitare pour faire de la bonne musique.
Quelque chose me dit qu'Edith fera le CQFD inverse en disant que justement, même la compagnie créole, c'est pas de la bonne musique DPL.
Quoi ? Comment peut-on dire ça ? Excuse-moi Benoît, mais la compagnie créole, aux dernières nouvelles, ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages, ça fait briller le soleil et ça fait même danser les écureuils. Dans cette période de confinement où la nature reprend ses droits, je peux t'assurer que notre bonne vieille terre, en ce moment, elle chante la compagnie créole. Avant le confinement, la terre, elle chantait du Serge Lama, elle chantait « Je suis malade, complètement malade ». Et grâce au confinement, la nature reprend ses droits. On voit des animaux se balader tranquilles en centre-ville. On n'a jamais vu des eaux aussi claires partout dans le monde. L'air qu'on respire est presque pas pollué. Non, vraiment, cette crise du confinement est en fait une bénédiction pour Mère Nature. Et donc, ça mérite qu'on passe à l'antenne de la compagnie créole.
Mais il me semble que Mathieu t'a déjà passé une de leurs chansons, non ? Donc, on va pas abuser non plus.
Ouais, t'es en train de dire que pour un cap de passer une chanson de la compagnie créole, t'es pas cap.
Bah, c'est surtout que je dois respecter la ligne éditoriale, quoi. Alors, il faut pas croire que sous prétexte qu'on est animateur radio, on peut passer que la musique qu'on aime.
Alors, je prends note que tu n'es pas cap, hein, c'est pas grave. Mais bon, sinon, afin d'apporter un peu de soleil d'outre-mer à nos auditeurs, est-ce que tu es cap ou pas cap de faire une interview à l'antenne de José Sebeloué, le chanteur de la compagnie créole ?
Bah, tu sais, moi, DPL, je vais t'avouer, dans la musique des îles comme ça, moi, je suis plus Jacob Desvarieaux, tu vois, que la compagnie créole Cassav, tu sais.
Chacun son île, chacun son île.
Tu vois, Zoukla, c'est ça le médicament nounou. Je suis plutôt dans ce style-là, quoi, tu vois, moi.
Ouais, ouais, mais moi, je peux plus danser le zouk à cause d'une blessure au genou, c'est pour ça. Bon, je vais te laisser tranquille avec la compagnie créole, du moins pour aujourd'hui. Est-ce que tu connais le film Good Morning England ?
Ah bah bien sûr.
Oui, ça raconte donc l'histoire d'une radio pirate britannique qui s'est établie sur un bateau dans les eaux internationales. Alors Benoît, je ne vais pas te demander d'aller dans les eaux internationales, n'allons pas si loin, restons dans le Val de Saône. Mais serais-tu cap ou pas cap de monter une radio pirate dans une péniche sur la Saône ? Pour pouvoir passer toute la musique que tu aimes, celle qui vient de là, celle qui vient du blues.
Bah, tu sais que déjà, on parle sur une ancienne radio pirate, là, DPL.
C'est vrai.
Radio Calade, c'était déjà une radio pirate. Alors, si tu me trouves la péniche, moi, je veux bien aller faire le pirate de la Saône en faisant une émission de radio. Et si vraiment, tu arrives à trouver une péniche, promis, je trouverai un moment pour passer la compagnie créole, alors.
Oh, j'aime les challenges. Je prends note. D'ailleurs, en attendant...
Il va être capable, en plus, hein.
On ne sait jamais sur un malentendu. En attendant, donc, revenons à cette émission spéciale confinement que tu animes. Sache que cette émission a des fans, avec notamment mes parents qui écoutent toutes les émissions.
Ah, c'est gentil à eux.
Oui, mais c'est surtout parce qu'ils redoutent que je dise plein de bêtises sur eux et après ils ont honte quand ils croisent d'autres auditeurs. Du coup, serais-tu cap ou pas cap de leur proposer quelques minutes à l'antenne pour qu'ils aient un droit de réponse par rapport à toutes mes interventions ?
Ah oh bah là, je suis carrément cap de parler à papa DPL et maman DPL.
Je pense que maman, oui, ça lui fera plaisir. Je vais leur en toucher de
beau. Il suffit de me donner leur numéro de téléphone et puis on les appelle, il n'y a pas de souci.
Je vais préparer, moi, je suis cap. Ça, je te transmets ça en antenne. Bien, bon, maintenant on va se projeter dans le futur et notamment dans le déconfinement qui, j'espère, n'arrivera pas trop tard et si possible un vendredi, hein, pas un lundi. Hein. Déconnez pas, je ne suis pas motivé pour retourner au boulot un lundi. Bref, comme je l'évoquais il y a quelques temps à l'antenne avec Mathieu, quand la crise sera passée et que tous les bars et endroits festifs de Villefranche seront rouverts, j'irai faire la Dancing Queen dans tous les bars de la Calade. Benoît, cap ou pas cap, de m'accompagner jusqu'au bout de la nuit, tel un démon de minuit, dans cette future grande fiesta post-confinement.
Alors, à condition que nous embarquions avec nous toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette émission DPL.
Ah bah avec grand plaisir.
On emmène Charline Signan.
toute Radio Calade, ouais, c'est top.
On emmène Charline Simian, on emmène Najette, on emmène Eddy, Mathieu, Georges Botton, Coche, Florent Hénon, Joseph Pariot, tous ceux qu'on retrouve chaque semaine et sans qui cette émission serait bien vide et bien plate. On les emmène tous pour faire les Dancing Queens jusqu'au bout de la nuit. C'est ça, moi je suis de cap, carrément.
Je suis cap aussi, j'ai hâte.
Et ça, j'espère qu'on le fera d'ailleurs.
Ah ben, j'espère aussi, oui. Effectivement, on le mérite, vous le méritez tous, effectivement. Bravo pour cette émission spéciale confinement.
Bon, eh ben, on fait ça comme ça, alors on ira faire les Dancing Queens jusqu'au bout de la nuit avec tous les amis de Radio Calade.
Yes,
et dans les bars de la Calade, ouais. On fait comme ça, alors DPL, et puis nous, on va se dire au revoir, parce que ça va être le moment de se quitter.
Oui. Hein,
14h arrive vite, quand même.
C'est ça. Et donc, puis, bon après-midi à tout le monde.
Bon après-midi. Vendredi, du coup, c'est relâche, hein, pas la peine de préparer une chronique, hein, parce que c'est le 1er mai, donc on va quand même pas travailler le 1er mai.
Je vais rester en pyjama.
Oui, voilà.
Hein, on comme aujourd'hui, ça. En fait.
D'accord. Et puis, nous, on donne rendez-vous aux auditrices et aux auditeurs demain avec Eddy pour, eh bien, un nouvel épisode de Le Confinement Ensemble sur les ondes.
Ouais.
Ça te va ?
Ça me va très bien.
Allez, eh ben écoute, on se retrouve très bientôt la semaine prochaine. Salut DPL.
Salut, salut.
Quant à vous, restez à l'écoute de Calade. On se dit au revoir, c'est déjà l'heure. Et il sera le temps demain de retrouver dès midi Eddy Bernard. Et non pas Eddy Bernard, je vous dis une bêtise. Demain, c'est pas Eddy, c'est Mathieu. C'est Mathieu qui sera là. Donc Mathieu Roire pour un nouvel épisode de cette émission Le Confinement Ensemble sur les ondes. D'ici là, prenez soin de vous. Respectez bien les mesures de confinement. Respectez bien tout ce qui doit être respecté. Et on se dit à très vite. Vite, au revoir.
Calade, 14h.